Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
La semaine de prière pour l'unité des chrétiens s'est achevée ce vendredi soir avec des vêpres présidées par Benoît XVI. Dans son homélie, le pape a dénoncé le scandale de la division des chrétiens. L'unité, a-t-il rappelé, est primordiale. Réorganisation interne au Vatican, Benoît XVI a signé deux motu proprio pour des transferts de compétences au sein de la curie. La responsabilité des séminaires passe à la congrégation pour le clergé. La responsabilité de la catéchèse passe, elle, aux mains du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Le pape prie pour que les responsables politiques protègent les enfants à naître. Message envoyé par Benoît XVI aux 400 000 Américains qui marchent pour la vie ce vendredi à Washington. Un tweet de soutien. Les Coptes catholiques d'Égypte ont un nouveau patriarche. Monseigneur Sidrac nous a accordé un entretien. Il revient pour nous sur les nombreux défis qui l'attendent alors que l'Égypte célèbre ce vendredi les 2 ans de sa révolution. Et puis enfin, journée internationale de lutte contre la lèpre, une maladie qu'on peut guérir mais qui continue de faire 250 000 victimes chaque année. Hommage dans cette émission à la Fondation Raoul Follereau. Elle fête ses 60 ans de combat. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine en langue française de Radio Vatican. Fin de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens avec les vêpres célébrées en la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome. Cérémonie présidée par Benoît XVI en présence du métropolite Gennadios, représentant du patriarcat œcuménique de Constantinople, du révérend aussi Richardson, représentant personnel à Rome de l'archevêque de Canterbury et de nombreux autres représentants de diverses églises et communautés ecclésiales, sans oublier les membres de la commission mixte pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et les églises orthodoxes orientales. On y reviendra dans un instant. Et cette année, le thème de cette semaine de prière était « Ce que le Seigneur exige de nous ». Et pour le pape, pour qui l'écuménisme tient particulièrement à cœur, l'unité des chrétiens est primordiale car la division est un scandale. Retour sur son homélie avec Xavier Sartre.
S'il y a bien un argument en faveur de l'unité des chrétiens, au-delà des aspects théologiques de la question, c'est celui du défi que les différentes confessions ont en commun. Dans nos sociétés, le message chrétien pèse de moins en moins, relève Benoît XVI, pour qui l'unité est un moyen privilégié pour annoncer de manière toujours plus crédible la foi à ceux qui ne connaissent pas encore le Sauveur ou ceux qui ont oublié ce précieux don. Dans ce contexte, raffirme le pape, la pleine et visible communion entre chrétiens s'entend comme une caractéristique fondamentale pour un témoignage encore plus clair. Il est donc, explique-t-il, nécessaire de collaborer concrètement entre disciples du Christ pour transmettre la foi au monde contemporain. Pour rendre la présence des églises plus incisive dans la réalité de notre temps, les chrétiens ont besoin de réconciliation, de dialogue et de compréhension réciproque. Mais le chemin reste long. Outre les questions doctrinales qui ne doivent pas être négligées ou minimiser, c'est à une conversion qui bouge les consciences et favorise la guérison des souvenirs et des rapports qu'appelle de ses vœux Benoît XVI. Cette conversion nous portera plus près de Dieu, mais aussi davantage près des autres. C'est là le point critique pour le pape. Le renouvellement de la vie intérieure de notre cœur et de notre esprit est crucial dans chaque dialogue et chemin de réconciliation. L'unité et la foi sont donc inséparables, comme l'a affirmé saint Paul, dont on célèbre aujourd'hui la conversion. Tout un symbole.
Toujours concernant l'unité des chrétiens, ce vendredi matin, Benoît XVI a rencontré les participants à la réunion de la commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et les églises orthodoxes orientales, une commission qui fête cette année ses 10 ans d'existence. Benoît XVI a notamment rendu hommage, un hommage appuyé au patriarche copte orthodoxe Chenouda III, récemment décédé. « Tous les chrétiens, a-t-il dit, ont besoin de travailler ensemble dans une acceptation mutuelle ?» Et en vérité, pour servir la cause de la paix et de la justice, selon bien sûr la volonté du Seigneur, a souligné le pape. Benoît XVI a fait part de sa proximité spirituelle envers le Moyen-Orient, une terre si importante pour le plan de salut de Dieu. Le Moyen-Orient, justement, toujours au cœur de l'actualité, l'Égypte fête les 2 ans de sa révolution, celle qui a renversé l'ancien Raïs Hosni Moubarak. De nouvelles manifestations ont eu lieu dans le pays ce vendredi et les slogans d'il y a 2 ans ne semblent pas avoir changé. Pain, liberté, justice sociale. Il y a quelques jours, Mgr Ibrahim Sidrak a été élu nouveau patriarche copte catholique d'Égypte, succédant ainsi au cardinal Antonios Naguib, démissionnaire. Le 15 janvier dernier, Benoît XVI concédait à Mgr Sidrak la communion ecclésiastique, confirmant ainsi son élection. Mgr Ibrahim Sidrak l'avoue, l'élection fut pour lui une réelle surprise. Il ne l'accepta pas moins avec humilité. Et c'est en prenant pleine mesure des défis inhérents à sa charge que ce jeune patriarche de 57 ans s'apprête à guider une communauté de près de 250 000 âmes dans une Égypte troublée et instable. Quels sont aujourd'hui les défis de l'Égypte? Le nouveau patriarche copte catholique est interrogé par Manuela Afidji.
Je n'ai pas, comme on dit, un programme, mais je me suis habitué. Et puis je dis, je suis prêtre, je suis évêque, donc je suis un outil de la réconciliation dans l'Église même, chez nous, et en dehors de l'Église, dans notre pays qui souffre dans un moment très troublé. Avant tout, avant de prévoir le dialogue, les choses comme ça, on doit se rencontrer, vivre le témoignage de l'amour, de respect mutuel.
Les Coptes ont été particulièrement visibles et remarqués lors de la révolution du 25 janvier 2011. Est-ce que vous encouragez vos fidèles à être encore plus engagés, notamment dans le domaine social et politique?
Bien sûr, je les encourage. Pendant mon service à Minya, j'essayais de faire et d'encourager et d'être présent parmi les groupes de mon diocèse pour être vraiment utile pour notre société égyptienne. Et je continuerai à le faire parce que prêtre, évêque, patriarche, chrétien avant tout, c'est une personne de témoignage, surtout pour notre société qui souffre et de manque de dialogue, de vrai respect et surtout pour la dignité humaine. Parce qu'on pense beaucoup à faire des programmes économiques, politiques, mais on passe loin de la personne humaine.
À long terme, comment voyez-vous l'évolution du processus politique en Égypte?
C'est-à-dire la vérité, je trouve que c'est difficile, mais il ne faut pas se désespérer. Comme je dis, il y a partout les personnes qui veulent construire le royaume de Dieu sans doute. Grâce à ces personnes, j'ai encore l'espoir, même si c'est très difficile à cause de ce régime qui ne veut que posséder le pouvoir seulement. Il y a une mentalité qui menace ce respect pour la personne humaine et en même temps les difficultés au niveau économique et social aussi dans la société. Comme on dit toujours en arabe, Emmanuel qui est présent parmi nous, Allah, Rabbena Maugout, Inch'Allah.
Quels sont les principaux défis qui vous attendent en tant que patriarche et qui attendent votre communauté?
Il y a des défis à l'intérieur de l'Église, disons la formation en premier lieu, spirituelle, humaine, du tout. Et puis la formation des cadres aussi, le futur, l'Église future. Il faut avoir des cadres pour demain. Il y a surtout au niveau du pays, il y a un grand défi, c'est la peur et l'immigration, parce que surtout les jeunes qui veulent quitter l'Égypte et surtout aussi les familles qui peuvent faire quelque chose. C'est elles qui quittent l'Égypte, donc ça c'est un des grands défis. Et puis, un grand défi du point de vue positif, le travail œcuménique avec l'Église orthodoxe, comment on arrive à un respect mutuel, parce qu'on a beaucoup de problèmes du passé. Le passé, il faut le prendre en considération pour apprendre beaucoup de choses et il faut s'excuser pour les fautes. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas faute. Mais il faut beaucoup d'efforts pour le futur en travaillant avec les orthodoxes, les protestants et avec les musulmans aussi, surtout. pas seulement en tant que religieux, mais en tant qu'Égyptien. Il faut approfondir ce concept, être Égyptien, et puis après, religieusement, alors chrétien ou copte orthodoxe, copte catholique, ainsi de suite, tout ça vient dans deuxième degré, je crois. Et quand je suis fidèle, je crois, il faut que ma foi m'aide beaucoup à être plus efficace pour la construction du monde meilleur.
Réorganisation interne au Vatican, le pape l'avait annoncé fin octobre dernier à la fin du synode des évêques consacré à la nouvelle évangélisation. À l'issue de cette assemblée synodale et de réflexion concernant les séminaires et la catéchèse, Benoît XVI a publié deux mots tout proprio ce vendredi. Le premier, Ministrorum Institutio, officialise son intention de transférer de la Congrégation pour l'éducation catholique à la Congrégation pour le clergé tout ce qui a trait au séminaire. De quoi s'agit-il ? Eh bien, de promouvoir, de gérer tout ce qui concerne la formation, la vie, le ministère des presbytères et des diaconies, de la pastorale des vocations, sélection des candidats à l'ordination jusqu'à leur formation continue, ce qui inclut leurs conditions de vie ou les modalités avec lesquelles ils exercent leur ministère. En fait, le souci de Benoît XVI est d'apporter à ses séminaristes et futurs prêtres une continuité dans leur formation. Le second motu proprio, en revanche, Fides Per Doctrinam, institue le fait que revient désormais au Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation de s'occuper de la catéchèse. Comme le disaient ses prédécesseurs Jean-Paul II et Paul VI, Benoît XVI insiste sur le fait qu'il y a un rapport étroit entre les processus d'évangélisation et l'enseignement catéchétique. Le dicastère créé par Benoît XVI en 2010 s'occupera donc maintenant de la formation religieuse des fidèles. Dans une époque, dit le pape, marquée par une dramatique crise de la foi, l'intelligence de la foi requiert que ses contenus soient exprimés dans un langage nouveau, capable de présenter l'espérance présente chez les croyants à ceux qui demandent raison. En anglais et en espagnol, Benoît XVI a tenu à publier un nouveau tweet ce vendredi pour soutenir les 400 000 participants de la Marche pour la vie. Elle se déroule ce 25 janvier aux États-Unis, à Washington. « Je m'unis de loin à tous ceux qui marchent pour la vie et je prie pour que les responsables politiques protègent les enfants à naître, favorisent la culture de la vie. » C'est ce qu'écrit le pape dans ce tweet. Cela fait maintenant 40 ans que la Cour suprême américaine a reconnu l'avortement comme un droit fondamental garanti par la Constitution, fondé sur le respect de la vie privée. Depuis, la question continue bien sûr de déchirer les pro-choice en faveur de l'avortement et les pro-life qui sont contre l'avortement. Ces derniers organisent donc cette marche chaque année afin de dénoncer ce qu'ils appellent le triste anniversaire de cette loi. Cette semaine, 40 ans après cette loi qui a constitué un bouleversement d'une extrême gravité aux États-Unis pour l'épiscopat, eh bien les évêques américains ont proclamé cette semaine semaine de prière et de repentir. Les catholiques doivent s'engager davantage auprès des malades, notamment des lépreux. C'est l'appel lancé par Mgr Zygmunt Zimowski à l'occasion, ce dimanche, de la 60e journée mondiale de lutte contre la lèpre. Dans un message, le président du Conseil pontifical pour la pastorale des services de la santé rappelle que cette maladie est chargée de souffrance, bien sûr, mais d'exclusion et aussi de pauvreté. Olivier Tosserie.
Malgré un traitement efficace, la lèpre persiste dans de nombreuses régions défavorisées où sévissent aussi l'ignorance et la pauvreté. Ce fléau qui frappe encore une personne toutes les 3 minutes dans le monde. Malgré l'action des organisations nationales et internationales, gouvernementales ou non, comme l'OMS ou la Fondation Raoul Folraud, l'accès aux structures de diagnostic et de prévention reste en effet insuffisant, explique Mgr Zimowski. Or tout ceci, poursuit-il, est fondamental, d'autant que bien soignée, la lèpre n'est plus fatale. Face à une telle priorité sanitaire, le président du Conseil pontifical pour la pastorale des services de la santé invite donc les catholiques, dans le cadre de l'année de la foi, à s'engager au service des malades. En vertu de notre baptême, nous devons nous efforcer de faire de cette 60e journée une occasion d'intensifier la diaconie et la charité de nos communautés afin que chacun soit pour autrui le bon samaritain. Monseigneur Zimowski cite notamment en exemple l'action de Mère Teresa de Calcutta, fondatrice des missionnaires de la charité, et de Raoul Follereau, dont on célèbre cette année le 110e anniversaire de la naissance. Cet homme qui a fait sienne la bataille pour les lépreux rappelait d'ailleurs l'essence de ce combat. La lèpre, disait-il, c'est un homme qui souffre et se désespère. À quoi bon l'arracher à la lèpre si dans nos cœurs il demeure un lépreux ? C'est pourquoi la bataille de la lèpre se livre sur deux fronts. Il s'agit de soigner les malades, de les rendre non contagieux, de les guérir. Mais il s'agit aussi de guérir les bien portants de la peur absurde et parfois criminelle qu'ils ont de cette maladie et de ceux qui en sont atteints.
Combat, action, mais aussi progrès. Après 60 ans d'existence, la Fondation Raoul Follereau a aidé à guérir plus de 14 millions de lépreux. Mais pourtant, chaque année, cette maladie fait encore près de 250 000 victimes, d'où la nécessité de rester mobilisé. La 60e journée mondiale de lutte contre la lèpre a fait donc à nouveau appel à la générosité du grand public qui permet de soutenir des programmes de santé aujourd'hui dans 28 pays à travers le monde. Je vous propose d'écouter le témoignage du docteur Domeni à l'unité lèpre de l'OMS à Genève.
La lèpre est une maladie qui existe encore sur cette planète, bien qu'elle soit en recul. Il faut savoir que la lèpre est une maladie de l'exclusion, de la pauvreté. Et elle touche encore aujourd'hui environ 220 000 personnes chaque année, essentiellement dans les pays où la pauvreté est un problème majeur.
Qu'en est-il de la recherche et des efforts pour éradiquer la maladie ?
Dans la communauté internationale et la plupart des gouvernements des pays endémiques se sont engagés depuis plusieurs années pour contrôler et ce qu'on appelle éliminer la maladie. On n'a pas encore les moyens suffisants. On espère un jour éradiquer cette maladie, mais on n'a pas encore les moyens suffisants pour l'éradiquer. On essaie de la contrôler et de s'assurer que tous les malades qui ont besoin d'être diagnostiqués et traités le sont. Et pour ça, la communauté internationale, les ONG, les compagnies pharmaceutiques font des efforts exceptionnels. Par exemple, en mettant à disposition les médicaments pour traiter tous les malades du monde entier gratuitement, que ce soit en Europe ou en Afrique ou en Asie. La difficulté, c'est de s'assurer que les populations qui sont difficiles à atteindre parce qu'elles sont pauvres et d'accès au diagnostic et au traitement le plus rapidement possible.
Quel rôle l'Église joue-t-elle dans cette lutte contre la maladie ?
De façon historique, je dirais biblique, l'Église a joué un rôle majeur dans la conception de la lèpre, de cette maladie elle-même. D'une façon générale, l'Église a joué un rôle de catalyste extrêmement positif pour faire que la discrimination contre ces maladies soit inexistante. Mais comme la plupart des religions, l'Église, à un certain moment de son histoire, a contribué à augmenter la stigmatisation de cette maladie en nommant le lépreux impur, unclean, en favorisant le rejet de ces malades et leur isolement dans beaucoup d'endroits. Aujourd'hui, l'Église, dans tous les pays du monde, contribue grandement à éliminer cette maladie. Les efforts de l'Église et de la communauté sont tout à fait exceptionnels et on pourra espérer un jour éradiquer cette maladie.
La lutte contre cette maladie a-t-elle fait des progrès ces dernières années ou bien la situation stagne ?
La situation s'améliore chaque année, lentement, mais s'améliore. Ce qu'il faut savoir, c'est que les moyens de diagnostic et de traitement n'ont pas changé depuis plusieurs décennies. Ils sont toujours efficaces, mais ce sont toujours les mêmes. Et en l'espace de 20 ans, on est passé de 10 millions de cas à 200 000 cas. Donc c'est une réduction de 90%, un peu plus, qui est exceptionnelle. Et comme toujours dans la lutte contre les maladies, l'étape la plus difficile, c'est la dernière étape. Donc maintenant, il faut continuer. Il faut apporter le diagnostic et le traitement dans les endroits les plus difficiles, les plus reculés, aux populations les plus pauvres de cette planète. Et ce n'est jamais facile. Et le rôle de l'Église est extrêmement important pour contribuer à éliminer cette maladie.
Vous pensez qu'elle sera éradiquée au XXIe siècle ?
Je pense qu'elle peut être éliminée comme elle l'a été en Europe ou en Amérique du Nord. Je pense que si vous nous laissez encore 100 ans, 21e siècle, ça fait encore 87 ans. Je pense que oui, il doit être possible, si la communauté internationale se mobilise, de venir à bout de cette maladie.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre page Facebook Radio Vatican en français ou sur notre site internet www.radiovaticana.va. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure pour une nouvelle émission.